C'est vrai, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez, les bénédictions de l'Éternel sont nombreuses quand on considère ces bénédictions spirituelles qu'il nous accorde, et même matérielles aussi. Il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Je connais bien ce verset que Francie a rappelé dans sa prière, puisque c'est le verset qu'il y avait sur le faire-part de notre mariage. Je crois qu'il y a un quart de siècle passé, hein. 25 ans. Combien? Pardon?
25 ans.
C'était en 92, donc ça fait 25 ans. On va lire dans le livre des psaumes ce matin, et on lira le psaume 66. Psaume 66. Au chef des chantres, cantique. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Verset 4. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur, elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, il n'a pas permis que notre pied chancelle. Verset 10. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes, j'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait point exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière, et qui ne m'a pas retiré sa bonté. C'est un psaume qui date peut-être du 6e ou du 5e, voire du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et l'auteur, c'est un auteur anonyme, ce n'est pas David, ce ne sont pas les fils de Corée, ce n'est pas Salomon. C'est un auteur anonyme, mais pieux et solidaire du peuple d'Israël, qui invite tous les habitants de la terre, tous les peuples, toutes les nations, à écouter les hauts faits que l'Éternel a accomplis. On voit ça au verset 1, 5 et 9. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu, depuis la sortie du pays d'Égypte, n'a cessé de délivrer, de guérir, de secourir le peuple d'Israël et le psalmiste aussi, en l'occurrence, qui écrit ce psaume. Suite à quoi ? Cette délivrance a été opérée suite à quoi ? Eh bien, suite, en partie, à la prière du psalmiste que nous trouvons au verset 19 et que nous avons lu. Et pourtant, Dieu m'a écouté, attentif à la voix de ma prière. Bénis Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui n'a pas retiré sa bonté. Mais ce n'est pas sur ce verset-là que j'aimerais focaliser notre attention ce matin, mais plutôt sur un verset qui précède, le verset 10, que nous avons également lu, et qui nous dit « Tous les hommes, bon, ça je suis dans le psaume 64, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as éprouvés, ô Dieu, et tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Et l'image de l'argent éprouvé au creuset est une image qui est assez familière à l'Ancien Testament. Et aussi, on la retrouve une fois ou deux dans le Nouveau Testament. Et les écrivains, les prophètes de l'Ancien Testament utilisent cette image pour illustrer un temps, un moment d'épreuve par lequel le peuple passe ou par lequel un être humain peut passer aussi. Le creuset. C'est quoi ? Bien, le creuset, c'est une sorte de pot, une sorte de récipient dans lequel on met des minerais de métaux comme le cuivre, l'or, l'argent, pour les faire fondre afin de rendre le plus pur possible le métal qui va sortir du minerai. Et c'est le dictionnaire de l'Académie française qui définit le creuset ainsi en ces termes. Récipient en terre réfractaire, en platine ou encore en porcelaine, où l'on met fondre certaines substances, donc principalement les minerais de métaux, pour les épurer, pour les rendre le plus pur possible. Ça, c'est la définition du creuset. Alors, comme il y en a qui sont visuels, ici, je pensais que c'était Jacques qui me l'avait rapporté du Congo, mais ça doit être toi, Paul. Mais Jacques m'a rapporté d'autres choses. Je vous le rappellerai plus tard. C'est un minerai. Vous voyez la couleur ? Non, hein ? C'est dommage. C'est bleu. C'est lourd. C'est un minerai de cobalt. Et quand on le met, si on le mettait au creuset, ou bien si on avait plusieurs petits minerais de cette matière qu'on mettait dans le creuset, eh bien après un certain temps, sous haute température, on obtiendrait ça. Ce n'est pas grand-chose. C'est l'extraction, c'est ce qui est sorti du minerai. La valeur se trouve ici, dans la goutte de cobalt. Ça ne vaut plus rien. C'est un caillou, un vulgaire caillou, poreux, dont on a extrait la matière et qui n'a aucune valeur marchande. On les utilise parfois pour faire une première couche aux routes et on appelle ça des scories. Des scories. Et bon, c'est un procédé qui est archaïque, qui est vieux. On le pratique peut-être encore dans certains villages où on fabrique de façon artisanale certains bijoux. Mais maintenant, il y a d'autres techniques chimiques qui permettent de liquéfier les métaux pour les extraire des minerais en question. Mais en tout cas, c'était ce procédé-là qui était utilisé au temps biblique. Et le croyant qui traverse une épreuve est donc parfois comparé à cet argent qui passe par le creuset, pour qu'il soit affiné, pour qu'il soit épuré, pour qu'il soit le plus pur possible. Et chaque être humain, tôt ou tard dans sa vie, connaît l'épreuve, passe par les difficultés liées à l'épreuve. Ne soyons pas surpris de voir un jour ou l'autre l'épreuve s'abattre sur nous. Nous sommes tous soumis à un moment ou à un autre dans notre vie à des temps d'épreuve. Et même le chrétien n'échappe pas à cette réalité. J'ai envie de même de dire que du contraire, parfois. Et c'est l'apôtre Pierre qui écrit dans sa première épître, au chapitre 4, verset 12, ceci: « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise, c'est un autre mot pour épreuve, qui s'abat sur vous. Et un peu avant, au verset premier, il écrit « Christ, ayant souffert dans la chair, armez-vous aussi de cette même pensée. » En d'autres termes, comme Christ a souffert, et même si c'était lié surtout au niveau des persécutions, eh bien, vous aussi préparez-vous à souffrir en tant que chrétien. Celui qui veut vivre pieusement, dit la parole de Dieu, eh bien, sera persécuté. Ce n'est pas une chose étrange. La souffrance, elle arrive à tout moment chez n'importe qui. L'épreuve fait donc partie de la vie de l'être humain, mais tous les êtres humains ne réagissent pas de la même manière par rapport à l'épreuve. L'épreuve peut soit nous rapprocher de Dieu, ou nous en éloigner. La maladie, la souffrance, les infirmités, les problèmes familiaux, un divorce, la mort d'un être cher, le chômage, une situation difficile, des difficultés financières, la persécution, comme nous l'avons rappelé il y a un instant, l'opposition, l'incompréhension sont autant d'épreuves qui peuvent nous atteindre. Mais d'où viennent ces épreuves ? On s'est posé la question hier avec Jean-Pierre et Gino. D'où viennent ces épreuves ? D'où proviennent-elles ? Eh bien, les épreuves, elles peuvent provenir de nous-mêmes. Elles peuvent provenir de moi-même. Si, par exemple, je roule trop vite, j'ai un accident, je me retrouve avec deux jambes cassées à l'hôpital, l'épreuve, elle vient de moi. C'est moi qui suis responsable de l'épreuve. Si je fume, ou si je consomme trop d'alcool, je risque d'avoir des problèmes de santé. Je suis responsable de mon épreuve. L'épreuve peut venir de moi, mais elle peut venir aussi de l'autre. Elle peut venir des autres. Et tu me rappelais hier aussi la tristesse que connaissait une église tout près d'ici, où un de ses membres avait trouvé la mort parce qu'il avait été renversé par une voiture. Alors, même s'il ne l'a pas fait exprès, c'est le conducteur de la voiture qui est responsable de l'épreuve dans laquelle il a plongé l'épouse et les trois enfants de cet homme. L'épreuve, l'autre peut en être responsable. Mais le diable aussi peut être responsable de l'épreuve. C'est lui le tentateur par excellence. Il est appelé celui qui détruit, celui qui divise, celui qui sépare. Et combien de couples, combien de familles ne sont-elles pas volées en éclats, suite à l'infidélité d'un des conjoints ? Et alors celui qui reste avec les enfants, il connaît des temps d'épreuve douloureux. Le diable veut te détruire, veut nous détruire. Combien de problèmes liés à l'addiction, combien de personnes, et tu pourrais certainement en parler, combien de personnes victimes d'épreuves suite à ces tentations qui ont été offertes par l'ennemi. Je peux être responsable de mon épreuve. L'autre peut être responsable de mon épreuve, mais le diable aussi peut être responsable de mon épreuve. Est-ce que Dieu peut être responsable de l'épreuve ? C'est une question qu'on s'est posée hier. Dieu peut-il être responsable de notre épreuve ? Si on s'en réfère à l'épître de Jacques, au chapitre... Est-ce que je suis là ? Au chapitre 1er, verset 13, si on s'en réfère à ce verset-là, Jacques 1, 13, on peut lire que Dieu ne peut tenter ou bien éprouver, c'est le même mot en grec, peirasmos, on peut le traduire soit par éprouver ou soit par tenter, Dieu ne peut tenter ou éprouver personne. Et je pense qu'il est évident que Dieu ne peut tenter personne, ne peut éprouver personne en utilisant le mal, en le forçant à faire du mal, c'est contre sa nature même. Dieu ne peut tenter personne à faire du mal. Mais, par contre, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs versets qui nous donnent à réfléchir par rapport à l'épreuve et à son origine, à sa source. Quand on lit dans Genèse 22, verset 1, par exemple, l'épisode où Abraham a failli sacrifier son fils Isaac, eh bien, nous lisons, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Et il y a d'autres versets qui convergent dans ce sens-là, toujours dans l'Ancien Testament. Alors, je ne vais pas m'avancer à dire ce matin que Dieu peut être à l'origine des épreuves. J'en sais rien. Mais on peut au moins supposer que s'il n'est pas à l'origine des épreuves, il peut les permettre dans nos vies. Il peut permettre que nous connaissions, que nous passions par certains temps, par certains moments d'épreuves. Et tout cela dans un but pédagogique, à des fins pédagogiques. Dans quel but, justement, précisément? Eh bien, Dieu peut utiliser l'épreuve, parfois, pour nous apprendre à être davantage dépendants de lui, pour nous rapprocher de lui, pour que nous puissions avoir une meilleure relation avec lui à travers l'épreuve. Pourquoi? Mais quand on ne sait plus compter sur soi-même, on est obligé de compter sur Dieu. Et il y a le verset de Jacques, toujours au chapitre 5, qui dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Et dans la souffrance, point d'interrogation, qu'il prie. Et la prière rapproche de Dieu, elle élève notre âme. Elle nous rend plus dépendants de lui. L'épreuve, un des objectifs, un des buts, une des finalités de l'épreuve est de nous rapprocher, de nous rendre plus dépendants de Dieu. Un autre, un autre objectif de l'épreuve, Dieu se sert aussi de l'épreuve pour nous apprendre la patience. C'est toujours Jacques qui dit dans son épître au chapitre 1er, verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi, elle va produire la patience. » Et c'est vrai qu'il faut parfois attendre longtemps dans des périodes de souffrance avant de voir l'issue de l'épreuve. Dieu veut nous enseigner la patience. Il le dit, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Dieu peut aussi utiliser l'épreuve pour produire en nous la persévérance. Et là, c'est l'épître aux Romains, Paul, qui écrit au chapitre 5, verset 3, ceci, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, ou bien dans les épreuves, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Mais la persévérance dans quoi? Bien la persévérance dans la foi. Dans la foi qui sauve, dans la foi qui libère, dans la foi qui délivre. Un autre but pédagogique de l'épreuve, et nous l'avons vu à travers du verset que nous avons rappelé, que nous avons lu tout à l'heure, un autre aspect pédagogique de l'épreuve dans la vie du croyant, eh bien c'est qu'elle intervient pour le purifier, pour nous purifier, pour nous rendre plus purs, pour nous faire progresser dans la sainteté, dans la sanctification. C'est aussi un des objectifs de l'épreuve, un des buts de l'épreuve. Et c'était le cas pour le psalmiste, comme je viens de le dire au verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Et si l'argent est mis dans le creuset, c'est pour le rendre le plus pur possible. Et c'est Malachi, le prophète, au chapitre 3, verset 3, qui écrit « Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'argent. » Un des objectifs visés de l'épreuve, c'est de nous purifier. Et dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 7, l'apôtre prend l'exemple de l'or éprouvé par le feu pour en enlever les scories, afin de le rendre plus pur. Et il montre aussi par là la finalité des épreuves, celle d'enlever les souillures, les péchés de nos cœurs, celle d'enlever les souillures de nos cœurs pour qu'on soit purifié, pour qu'on nous présentions à Dieu des cœurs plus purs. 1 Pierre 4, verset 1 écrit « Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Celui qui a souffert dans la chair en a terminé avec le péché. Quand on souffre, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. C'est vrai. On est focalisé, on est centré sur le moment d'épreuve et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On pourrait rappeler d'autres versets, 1 Pierre 5, 10 ou encore Jacques 1, versets 2 à 9. Ce matin, peut-être que quelqu'un passe par des moments d'épreuve. Peut-être que ce matin, quelqu'un passe par le creuset de l'épreuve. Peut-être est-ce le creuset de la maladie. Ou peut-être est-ce le creuset de la tristesse ou de la dépression. Peut-être est-ce le creuset d'une situation quelconque difficile. Peut-être est-ce que je passe par le creuset de difficultés financières ou économiques. Peut-être est-ce que je passe par le creuset du rejet, de l'humiliation. Peut-être que je passe par le creuset du deuil ou de la perte d'un être que j'aime. Et peut-être que ça fait longtemps que je me trouve dans le creuset de l'épreuve. Vous savez, dans les évangiles, on voit qu'il y avait une femme qui était atteinte de gonorrhée, de perte de sang depuis 12 ans. Peut-être que ça fait longtemps que je me trouve dans le creuset de l'épreuve. Et puis, il y avait cet homme-là, paralytique, ça faisait 40 ans, lui, qu'il était sans pouvoir bouger. Et ils ont été guéris, délivrés. Le livre de Job, au chapitre 33, verset 14 à 19, nous rapporte que dans l'épreuve, il y a toujours des enseignements à recevoir. Il y a toujours des leçons à tirer. Et l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 14, lui écrit ceci: au jour du bonheur, réjouis-toi, sois dans la joie, dans l'allégresse. Mais au jour du malheur, réfléchis. Je crois que les moments d'épreuve, les temps d'épreuve que nous pouvons, par lesquels nous pouvons passer, sont là aussi pour mettre en route notre réflexion. Peut-être qu'il n'y a pas d'examen de soi à faire à travers l'épreuve. Et gloire à Dieu, il y avait un aveugle de naissance qui était aveugle, non pas parce que ses parents avaient péché ou lui-même avait péché, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et je crois qu'il y a des épreuves qui nous sont données et des délivrances qui nous sont accordées pour que la gloire de Dieu soit manifeste et éclate. Néanmoins, l'épreuve peut aussi nous être donnée pour que nous puissions réfléchir. Alors Dieu veut-il m'apprendre à être plus dépendant de lui ? Est-ce que Dieu veut m'apprendre à être plus proche de lui ? Est-ce que Dieu veut m'apprendre à ce que ma foi soit plus active ? Est-ce qu'il veut augmenter ma foi, mon degré de foi ? Ou bien est-ce que Dieu veut m'apprendre à travers l'épreuve la persévérance ? Ou encore, Dieu veut-il, à travers l'épreuve, purifier mon cœur de toute forme de scorie inutile. Dieu veut-il enlever de mon cœur certains péchés qui n'ont aucune valeur, que du contraire. C'est comme de la boue aux yeux de Dieu. Et Dieu veut peut-être, à travers l'épreuve, que nous considérions ces saletés, ces impuretés qui entachent notre vie pour que nous puissions nous en séparer, nous en défaire. Connaissez peut-être l'histoire de ces trois femmes qui avaient l'habitude de se réunir pour étudier la Bible ensemble. Et un jour, elles ont été interpellées par un verset semblable à celui que nous avons lu. D'ailleurs, nous l'avons lu, c'est Malachie 3:3, et où il est écrit: « Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'argent. » Et alors, elles se posaient des questions, mais comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que ça peut se faire ? Et alors, il y en a une d'entre elles qui a dit, mais moi, je connais un orfèvre qui raffine l'argent. Je vais aller le voir et je vais lui demander de m'expliquer un petit peu comment ça se fait. Alors, elle est allée voir l'artisan en question, qui lui a expliqué qu'en fait, il a dit ceci, je dois constamment garder les yeux sur le métal pour contrôler l'intensité du feu. Parce qu'il y a deux choses qui peuvent détruire le métal, deux choses. Soit si on le laisse trop longtemps sur le feu, ou soit si la chaleur est trop intense. Et c'est pour ça que je dois garder continuellement les yeux fixés sur ce précieux métal pour être certain de ne pas le perdre. Et alors, en écoutant ces explications, la femme, elle était satisfaite, elle était impressionnée, et elle se disait, mais c'est bien ce que je pensais. Même à travers l'épreuve, Dieu conserve un regard sur moi. Dieu veille sur moi, Dieu m'accompagne. Et elle était sur le point de partir, lorsqu'elle fit demi-tour pour lui poser une deuxième question. Mais au fait, comment savez-vous quand il faut arrêter le feu? Comment savez-vous que vous avez atteint le degré de raffinage suffisant, souhaité? Et alors la réponse de l'orfèvre fut sans appel. Lorsque mon visage se reflète dans le métal, je sais qu'il est prêt. C'est une belle illustration et qui nous explique, qui nous illustre finalement bien un des objectifs parfois de l'épreuve. Le divin orfèvre souhaite que le visage de Christ, à travers l'épreuve, réfléchisse dans nos vies. Dieu souhaite qu'à travers l'épreuve, eh bien, le caractère de Jésus-Christ transparaisse à travers moi. Un des objectifs, un des buts de l'épreuve. Et on va terminer. Quel que soit, bien-aimé, quelles que soient les épreuves ou les difficultés que nous connaissons, et parfois elles peuvent être lourdes, elles peuvent être pénibles, elles peuvent être conséquentes, restons calmes et confiants. C'est là qu'on va puiser notre force. C'est comme le dit le prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, votre force. Essayons de voir plus loin. Dieu sauve, il guérit et il délivre. Il promet le secours, mais il va l'amener quand il veut, comme il veut, quand il le jugera bon. En tout cas, ce que Dieu promet, on l'a rappelé ce matin, il l'accomplit. Et c'est encore dans sa deuxième épître, dans la deuxième épître de Pierre que nous lisons au chapitre 2, verset 9, « Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. » Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux. Même si parfois, la mort constitue une libération, une délivrance. C'est que certaines personnes, même face à la mort, peuvent rester calmes et sereins et paisibles. Et parfois, la mort est une délivrance. On va relire le verset qui a attiré notre attention, là, pour la réflexion de ce matin, dans le psaume 66, verset 10. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. » Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Que Dieu nous aide, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous sommes susceptibles de passer, à considérer que chaque épreuve constitue un bien fondé pour les enfants de Dieu. Même si on ne le comprend pas tout de suite.